RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Écoutez et regardez les GG, c'est tous les jours de 9h à midi en direct sur la radio RMC, la télé RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Aujourd'hui avec Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon. Nous sommes avec Joël Dagosséry, la coach de vie, et avec l'avocat Charles Consigny. On accueille notre invité maintenant pour le Face au GG.
RMC, Face aux grandes gueules.
C'est le visage de la science à la télé. Il s'appelle Mac Lesguy. Vous vous souvenez de Égal M6 sur M6. Le livre est aux éditions du Rocher. Vérité, toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Bonjour.
Bonjour.
Il y a deux émissions scientifiques cultes en France. Les Grandes Gueules et Égal M6. Non,
c'est exact.
Ah, bien sûr, Charles. Ah ouais, docteur Consigny.
Vous le dites.
Justement, dans les GG, il y a un instant, on parlait de cette peur vis-à-vis de ce nouveau virus, le hantavirus, qui a malheureusement touché des croisiéristes. Doit-on craindre ce virus? On a bien sûr tous en mémoire le Covid. Est-on parti vers une nouvelle pandémie mondiale, selon vous?
Alors, je ne suis pas virologue, et je ne vais pas jouer les virologues d'un jour. Voilà, faut pas péter, comme on dit. Moi, il y a une chose qui me rassure, c'est que on a quand même beaucoup appris avec l'épidémie du Covid, confinement, vaccin qu'on arrive à mettre au point de plus en plus rapidement. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet par cet hantavirus, qui est un virus, bon, ben, on le voit, qui est mortel.
On va tordre avec vous les idées reçues, puisque c'est l'objet de votre livre.
Oui.
Par exemple, on dit « le bio, c'est meilleur pour la santé ».
Non, le bio n'est pas meilleur pour la santé. Toutes les études et les méta-analyses, c'est-à-dire les études d'études faites sur des populations ayant mangé du bio versus des populations mangeant des aliments classiques, montrent qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé à consommer des aliments bio.
Mais c'est meilleur pour la planète.
Il y a quand même moins de pesticides.
Alors, il y a moins de résidus de pesticides dans les aliments bio, mais vous êtes entre 98 et 96% donc d'absence de pesticides en dessous des seuils à partir du moment où ça pourrait commencer à être toxique. Donc ça n'a aucune conséquence pour la santé. C'est-à-dire que les résidus de pesticides en moindre nombre dans le bio n'ont pas plus d'incidence que les résidus de pesticides en très faible nombre dans les aliments conventionnels.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est pas ça qui fait la différence, c'est le mode de vie. En fait, des personnes qui consomment du bio, à côté de ça, ils ont un mode de vie peut-être beaucoup plus sain.
Alors, c'est effectivement ce qui est ressorti d'une étude française. Pas d'une étude anglaise, mais il y a une étude française qui dit, tiens, on voit que les personnes dans notre étude que l'on suit qui consomment du bio sont en meilleure santé que celles qui n'en consomment pas. Mais ce sont aussi des personnes plus riches, oui, qui ont moins de surpoids, qui fument moins, qui boivent moins, qui font plus de sport, en un mot, qui font plus attention à leur santé, à leur corps, et c'est ça qui explique la différence, en l'occurrence, c'est sur la fréquence des cancers, c'est ça qui explique la différence de fréquence entre les cancers de cette population versus le reste de la population. Mais quand on fait la somme de toutes les études, parce qu'il y en a eu beaucoup, faites à l'échelle mondiale, une grande méta-analyse est parue l'an dernier, il n'y a, encore une fois, je le dis, aucune différence pour la santé entre une alimentation bio régulière et une alimentation non bio. Et pour répondre à votre question, sur la planète, alors, il faut distinguer le niveau local et le niveau global. Au niveau local, il est clair que dans un champ cultivé en bio, vous avez plus de biodiversité, et ça, toutes les études scientifiques le montrent. Donc, au niveau local, un champ en bio, c'est mieux qu'un champ pas bio. Par contre, si maintenant on élargit le scope, parce que le bio, c'est bon an mal an à peu près 5% de la production agricole. Si on dit, par exemple, si on passait tout le monde, toute la planète en bio, alors là, ça changerait, parce que le bio, vous le savez, c'est beaucoup moins de rendement à l'hectare. Autrement dit, si on passe tout en bio, il faudra démultiplier les surfaces agricoles. Ça veut dire rogner sur les espaces naturels, sur les forêts, sur les prairies naturelles. Et là, on peut penser que le remède serait... le résultat serait pire que cette solution. Donc, l'impact sur la biodiversité à l'échelle mondiale du bio, ça se discute.
C'est pour ça que j'ai pris cet exemple du bio, parce que votre démarche, elle est intéressante. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opinions. Et vous dites, il faut partir des faits scientifiques, en fait, avant de commencer à débattre et à faire part de ces opinions. Il y a une vérité scientifique. Et on n'oublie pas, il n'y a pas plusieurs vérités scientifiques. Il y a une vérité scientifique, elle peut évoluer. Elle peut évoluer, parfois elle peut tromper, etc.
Elle peut évoluer, on peut l'affiner, exactement. Chacun a des opinions, chacun a des croyances. à un moment donné, sur un problème donné, alors la science n'a pas réponse à tout, mais lorsque la science apporte une réponse, qu'elle est validée par plusieurs équipes au niveau national et international, c'est sans doute la meilleure réponse qu'on puisse apporter à tel ou tel problème. Voilà. Autrement dit, pour avoir une opinion, je dis, il faudrait commencer toujours par regarder ce que dit la science sur un point donné, plutôt que de dire, moi j'ai telle opinion. Encore une fois, la science n'a pas réponse à tout, mais pour apporter une bonne réponse, je pense que la démarche scientifique est la meilleure qui existe aujourd'hui.
Même si parfois, ça va tordre le cou à des idées répandues, notamment sur les réseaux sociaux, où chacun fait part de ce qu'il pense de tel ou tel fait.
Bien sûr. Et puis, vous avez en France un courant très répandu qu'on appelle le relativisme. La suite à un fameux chercheur en histoire des sciences s'appelait Karl Popper, qui disait finalement, la science c'est politique, les résultats sont très influencés, etc. Non, il faut avoir un moment le courage de dire qu'une opinion qui apparaît sur TikTok ou sur X, voilà, n'a pas le même poids que le résultat de 30 ans de recherche fait par plusieurs équipes internationales sur tel ou tel sujet. Bah, c'est le cas du bio, par exemple, c'est le cas des OGM, c'est le cas de beaucoup de problématiques liées à l'énergie.
Sur le réchauffement climatique, les OGM ne sont pas dangereux, par exemple.
Alors, il ne faut pas dire que les OGM ne sont pas dangereux, il faut dire que les OGM qu'on a mis à présent sur le marché depuis à peu près une quarantaine d'années et qu'on cultive dans le monde entier, voilà,
ne pose pas de conséquences néfastes.
Ni pour la santé, ni pour l'environnement. Et c'est toujours interdit. Et c'est toujours interdit chez nous.
Pourquoi on ne revient pas là-dessus, puisque désormais on a le recul et on se dit, on pourrait le faire.
Parce que je pense que cette peur des OGM qui a été instillée il y a 30 ou 40 ans a fini par contaminer toute la classe politique, tout le monde des décideurs, et qu'on mettra sans doute des années. Peut-être qu'on sera le dernier pays. Il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les surfaces mondiales cultivées avec des OGM représentent 10 fois la surface agricole française. C'est-à-dire que vous avez des millions d'hectares des USA à la Chine, en passant par l'Inde, l'Argentine et j'en passe, qui sont cultivés avec des OGM. Tout le coton, vous avez des chemises, vous avez des t-shirts, tout le coton que vous portez aujourd'hui, si c'est pas du coton bio, c'est du coton qui est OGM. Pour le plus grand bénéfice des insectes qui aujourd'hui reviennent dans les champs de coton, notamment en Chine, parce que chaque fois que vous mettez des OGM, vous diminuez les pesticides. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez, soit on continue à mettre des pesticides, soit on remplace ça par des OGM. C'est ce que le Nouveau Monde ou l'Asie ont fait depuis très longtemps.
Vous êtes écolo ou pas?
Alors, bien sûr que je suis écolo.
En plus de vos activités pour Monsanto.
Non, alors.
À côté.
Vous êtes quel type d'écologiste alors?
Moi, je suis pour une écologie qui préserve notre planète, notre biodiversité, et voilà, et qui lutte contre le réchauffement climatique. Je donne quelques clés pour bien comprendre déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de climato-scepticisme. Ouais. Hein, on sait, ça c'est, on a deux ennemis, si vous voulez. On a le changement climatique, puis aussi on a les climato-sceptiques qui disent il n'y a pas de changement climatique. Voilà. Donc j'essaie de donner quelques arguments pour permettre de les convaincre. Moi, je suis effectivement pour une écologie basée sur la science. Il faut savoir que l'écologie, avant d'être un courant politique, c'est avant tout une science. C'est la science qui étudie les êtres vivants et les relations dans un milieu donné entre les êtres vivants. Moi, dans mes études d'agronomie, parce que je suis ingénieur agronome, j'ai fait beaucoup d'écologie. L'écologie bien comprise, vous voyez, sur cette question des OGM, c'est de se dire effectivement, soit je prends une culture classique, je la protège des ravageurs, donc des insectes, des moisissures, avec des pesticides, des produits phytosanitaires, soit je passe aux OGM, ça veut dire que je vais diminuer les pesticides, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, mais justement, voilà. Pour vous, quand je dis que vous êtes écolo, est-ce que les Verts, le parti Les Verts, sont des écologistes comme vous ou pas?
Alors, je ne sais pas si ce sont des écologistes comme moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la politique, de donner des bons points
à tel ou tel... les bons arguments
à tel ou tel parti.
Nous faire passer à l'écologie ou pas?
D'une manière, ça questionne le rapport du monde politique avec la science. Et avec ce que disent
Beaucoup de scientifiques dans le monde politique.
Alors, il y a
pas beaucoup d'ingénieurs.
Il y en a quelques-uns, il y a pas beaucoup d'ingénieurs, malheureusement. Et d'une manière globale, je pense que aucun parti en France ne se dit on va commencer par voir ce que dit la science sur telle ou telle question avant de définir une politique. Voilà, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni aux extrêmes, ni chez les écologistes, ni ailleurs. C'est un peu la science quand ça nous arrange. Pourquoi? Parce que le poids des croyances, des idéologies est bien souvent plus fort que ce que disent les faits scientifiques.
Mais prenons un exemple, puisqu'on parlait du réchauffement climatique, la climatisation.
Oui.
C'est un vrai débat, la climatisation, puisqu'on va vers parfois des étés de plus en plus chauds, donc le réflexe, c'est bien sûr de s'équiper, parce que ça permet... Et d'ailleurs, pendant le Covid, ou pendant les canicules, on dit la clim, c'est bien, mais est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que quand on s'équipe en climatisation, on doit culpabiliser?
Alors non, on ne doit pas du tout culpabiliser. Nous allons, je ne suis encore une fois pas climato-sceptique, nous allons vers des étés de plus en plus chauds, vers des épisodes de canicule. L'INSERM fait les comptes chaque année sur la surmortalité liée aux canicules. Et quand vous discutez avec les chercheurs, en disant mais ça va s'amplifier, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils disent la seule chose à faire, c'est climatiser, à commencer par climatiser les personnes les plus fragiles. Mmh. Climatiser les hôpitaux, climatiser les maisons de retraite, climatiser les EHPAD, et puis climatiser les personnes âgées qui ont envie d'avoir frais et qui pourraient souffrir de la chaleur. Personne ne se pose la question dans ce pays, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, mais attendez, il faut vivre avec le froid en hiver, on va arrêter de se chauffer. Personne ne criminalise les gens qui achètent un chauffage pour se chauffer l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on va dire donner des leçons en disant se chauffer l'hiver c'est bien, mais se refroidir l'été c'est pas bien. Dans les grands pays développés du monde, le Japon, les États-Unis et d'autres, ce sont des pays qui sont climatisés à plus de 90%. Je ne comprends absolument pas pourquoi il y a ce tabou.
Oui, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie
aussi beaucoup d'énergie pour se chauffer. Mmh. On a la chance en France, vous le savez, on le sait tous, d'avoir une électricité qui est très peu carbonée. Mmh. Nous avons l'électricité, et ça, pardonnez-moi de le dire, mais c'est écolo parce que ça participe peu au réchauffement climatique. Donc, autrement dit, on a la chance de disposer de cette électricité peu carbonée. Évidemment, utilisons-la pour climatiser et pour protéger les personnes les plus fragiles en été.
Donc, il faudrait même un plan clim plus général.
Un plan clim.
Climatisation, c'est un certain coût.
Si on prenait
aider ceux qui peuvent pas se climatiser à le faire, notamment des personnes fragiles,
bien
âgées.
Bien sûr. Je vois encore des projets. D'hôpitaux, d'écoles. Il faut savoir aussi que quand la température commence à monter, la productivité baisse. La productivité dans les usines des ouvriers, dans les bureaux des travailleurs, dans les facs, dans les écoles des écoliers, des étudiants.
La productivité baisse. Trop chaud, oui.
Si on voulait adresser tous ces problèmes, on ferait un grand plan clim, effectivement.
Alors Joël Bruno.
Moi, j'ai vu dans votre livre un chapitre, vous savez, sur les médias et l'absence des fois d'experts. Le problème, c'est qu'on peut avoir une certaine défiance vers la science parce que tout à l'heure, vous expliquiez qu'un scientifique qui a fait 30 ans d'études sera toujours plus écoutable et on doit tenir compte de son avis que quelqu'un qui arrive là et qui veut dire qu'il va donner son avis sur tout. Et moi, j'ai un contre-exemple, malheureusement. Moi, je vois le professeur Raoult.
Oui.
Quand il est arrivé pour nous parler du Covid, c'est comme son métier, c'était quand même ça. C'était la recherche sur les virus. Il avait 30 ans d'expérience et moi je l'ai cru au début. Je me dis s'il nous dit un truc quand même, lui il est quand même mieux placé de me parler que lui que Édouard Philippe ou un autre qui est pas médecin. Sauf que maintenant avec un peu de recul, on se dit mais il a pas, enfin ce qu'il nous a raconté c'est un peu des cracks. Alors moi je trouve que le problème de la défense vers la science, c'est que ceux qu'on a emmenés à la télé des fois, c'était du spectacle, c'était pas des vrais scientifiques. Parce que les scientifiques, je pense qu'ils ont autre chose à faire que d'aller à la télé aussi.
C'est tout à fait vrai, et c'est pour ça qu'il faut plutôt que les écouter ou voir ce qui passe à la télé, et ensuite il faut les confronter à leur publication.
Oui.
Mais si vous voulez, au niveau, le professeur Raoult défendait, vous le savez, un médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine en disant que c'était un remède miracle contre le Covid. Il faut replacer ça dans son contexte. Le Covid a été une pandémie mondiale, le professeur Raoult et les quelques-uns qui l'ont suivi étaient tout seuls au milieu de milliers de médecins, qui tous ont fait des études dans tous les sens, des États-Unis à la Chine, etc. Personne n'a jamais repris. Vous avez toujours quelqu'un qui va parler à contre-courant. Vous avez même.
Et on aime bien finalement.
On aime bien ça. Peut-être qu'en France, tout d'un coup, on se dit tiens, lui, il parle pas comme les autres. C'est sûrement plus intéressant. Vous savez le syndrome du petit David contre le grand Goliath de la science. La science peut se tromper individuellement. Les chercheurs passent leur temps à se tromper en science. Ce qui est bien, c'est que c'est un processus qui est en quelque sorte auto-réparateur. Si vous voulez, ils disent j'ai fait une découverte, les autres disent ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? On va les vérifier, on fait une deuxième étude, une troisième étude, on va l'affirmer. Parfois ça va prendre 6 mois, parfois ça va prendre 1 an, 8 ans. J'ai un exemple très précis. La science française a mis 8 ans à corriger une grave erreur scientifique qui s'était produite 8 ans auparavant. Le temps de la science.
Et laquelle?
C'est la fameuse étude de Monsieur Seralini sur le danger des OGM. Une étude de 2012 qui a été aussitôt rétractée, qui était sur le plan scientifique, qui était vraiment une étude qu'on peut considérer comme frauduleuse. Le gouvernement a commandé 2 études pour cette fois-ci refaire cette étude, mais cette fois-ci avec des bases scientifiques. Elles ont été publiées, si ma mémoire est bonne, en 2017 et en 2018. Voilà. On n'a rien trouvé, évidemment, ça a été définitivement affirmé. Ça a pris 6 ans pour
les OGM.
Éteindre définitivement cette...
Alors, autre question.
J'aime beaucoup les OGM. Si la France adoptait les OGM, ça ferait certainement du bien à notre agriculture.
Charles.
Non, moi, j'ai pas de questions. Je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça tord le cou à un certain nombre de lieux communs qu'on a tendance à répandre, et que les gens tiennent pour acquis. Cette histoire d'attraper froid, vous expliquez que ça n'existe pas.
Pourquoi ça n'existe pas, attraper froid, puisqu'on utilise tous cette expression. J'ai attrapé froid.
Non,
le
froid ne rend pas malade. Ce qui rend malade, ce sont les virus. Ce qui se passe, c'est que quand on fait froid, on a tendance à se confiner dans des milieux où on va tous se serrer les uns contre les autres. Hein. Une école, un hôtel, la ligne 13. Je vois que nous parlons entre connaisseurs. Et c'est là que les virus circulent. Et c'est pour ça que on tombe plus souvent malade l'hiver que l'été.
Vous restez avec nous, Mac Lesguy. Le livre s'appelle Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Il est aux éditions du Rocher. Restez avec les GG, avec les grandes gueules. On aura des questions de Joël Dagosséry, Bruno Poncet, Charles Consigny. Sarah, on va l'accueillir maintenant. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Sarah, vous êtes avec nous parce que c'est vous qui avez gagné les vacances Bellambra.
Merci beaucoup à Bellambra et à RMC.
Mais je vous en prie, ma chère Sarah, vous avez gagné un séjour d'une valeur de 2000 euros. Vous choisirez la mer, la montagne, la campagne et vous partez en tout compris premium.
Parfait, merci beaucoup. Une belle journée à tous.
Vous savez où vous voulez aller ?
Peut-être la montagne.
Vous prendrez le catalogue Bellambra, vous choisirez. Bonnes vacances, Sarah.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Mac Lesguy reste avec nous. On revient dans un instant dans les GG. Puisque nous sommes avec un ingénieur, on aura la question du jour, bien sûr, à laquelle Mac répondra. Est-ce que la Terre est plate? Oui ou non? À tout de suite avec les GG. Il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direction RMC, RMC Story, Joël Dagosséry, Bruno Poncet, l'ami Charles Consigny, et nous sommes avec Mac Lesguy. Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Le livre est aux éditions du Rocher. Je donne la parole à Joël Dagosséry dans 10 secondes, mais sur le ton de la boutade, j'ai dit on vous répondra à la question est-ce que la Terre est plate, mais est-ce que ça vaut le coup de répondre aux complotistes qui fleurissent sur les réseaux sociaux, aux théories les plus farfelues, qui font floresse.
Alors, je ne suis pas expert. Je sais sur les réseaux sociaux qu'il est toujours difficile de convaincre un complotiste qu'il a tort sur tel ou tel point. Il faut peut-être essayer de rentrer dans son jeu en disant bon, les conséquences. Vous voyez, on parlait des victimes du Covid tout à l'heure ou des victimes du vaccin. Il y a bon, mais donc le vaccin a des effets secondaires terribles. Oui, il est mort. Combien? Est-ce qu'il y a une étude? Est-ce que ce qu'on appelle les anti-vax ont été capables de chiffrer le nombre de morts? Et non, en général, la conversation s'arrête très très vite. Oui.
Néanmoins, les anti-vax sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant la période du Covid, ce qui paraît complètement paradoxal puisque c'est quand même le vaccin qui, grâce au vaccin, s'il y en a eu plusieurs, ça nous a permis de revivre. Comment vous l'expliquez ça? Et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants alors que les vaccins sont obligatoires.
Mais regardez, notamment aux États-Unis, la rougeole était une maladie qui était quasi éradiquée dans les années 2000. Aujourd'hui, on revient à 400, à des plusieurs milliers de cas de rougeole. Il y a déjà quelques victimes. Alors, Dieu merci, la létalité de la rougeole est très faible, mais vous avez déjà 3, 4, 5, 6 morts de rougeole. Ce qui paraît une aberration, alors que c'est une maladie que vous connaissez tous le vaccin ROR qu'on donne à nos enfants, qui était autrefois il y a 20 ans considéré comme éradiqué. Mais le pire de ça, c'est que je lisais un article dans la presse américaine, c'est que quand vous interrogez les parents qui ont perdu cet enfant non vacciné mort de la rougeole, ils vous expliquent que c'est pas du tout parce qu'ils l'ont pas vacciné. Voilà, c'est-à-dire qu'ils restent persuadés que cette mort est due à d'autres causes. Ce qui montre bien que quand le complotisme est enraciné, il est très
parce
enraciné.
Parce que le vaccin, c'est Big Pharma, et Big Pharma veut nous tuer, entre guillemets,
pognon avec les morts.
En nous injectant des produits qui sont mauvais pour notre santé. Alors, c'est un peu paradoxal, puisque
c'est un peu paradoxal, parce qu'une
entreprise
qui cherche à tuer ses clients, a priori, c'est pas très viable longtemps.
Joël Dagosséry.
Alors, moi, j'ai adoré votre livre, parce que j'aime bien les petits livres croquignolesques comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs à grignoter, il y a toujours un conseil, des choses qui sont du quotidien ou des choses plus scientifiques sur le bio, les OGM, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment adoré pour les gens qui ont besoin de conseils, enfin qui y courent parce que c'est super, notamment sur le sommeil, parce que vous savez, moi je cherche depuis on va dire 2-3 ans à optimiser mon corps. Donc j'essaie d'apprendre des choses sur je cherche à apprendre comment on fonctionne, voilà. Et le sommeil par exemple, moi qui suis un peu comme beaucoup de femmes, hein, sur le poids, etc. Donc il y a 2 ans, j'ai compris que le sommeil favorisait la perte de poids. Oui. Et donc voilà, on retrouve ce type de conseils dans votre livre. Mais ma question, elle est un peu plus globale. Alors, comment vous jugez la place du scientifique dans la société française, notamment à la télé? Je vous dis ça parce que moi, j'ai grandi avec E égale M6, bien sûr, mais aussi C'est pas sorcier, mais aussi La vie, vous voyez, il y avait un dessin animé qui s'appelait La vie, où on pouvait rentrer à l'intérieur du corps, oui. Exactement.
Et le jour du Seigneur aussi, tu me disais.
Aussi, effectivement.
Ça, c'est pour soigner ton âme.
Et j'observe quand même qu'il y a une disparition de ce type de programme à la télé. On a en même temps un affaiblissement du niveau en mathématiques, en sciences à l'école. Et donc je me dis que les enfants actuellement n'ont même pas quelque chose sur leurs écrans auquel se raccrocher, qui pourrait même leur donner envie, par exemple, d'augmenter leur recherche en mathématiques, enfin, leur travail, etc. Nous, on avait tout ça, on se disait, tiens, ah, c'est génial ce qu'il a dit là, McLesguy, ou c'est génial ce
ça
que j'ai vu.
Ça peut faire naître des vocations.
Exactement. Donc comment vous observez ça, enfin comment vous jugez ça, et à quoi c'est dû selon vous?
Alors, à quoi c'est dû? C'est un phénomène qui est multifactoriel. Merci d'abord de noter qu'effectivement, M6 tient le cap, avec toujours une émission à une heure de grande écoute. Et mon credo depuis 35 ans, c'est de plaire au grand public sans déplaire aux scientifiques. C'est-à-dire que sur des thèmes très quotidiens, on essaie d'apporter les meilleures réponses scientifiques possibles avec le concours de tous les physiciens, chimistes, biologistes qui interviennent chaque dimanche soir dans l'émission. Donc ça, c'est un point important. Et c'est vrai qu'il y a une époque où il y avait plus d'émissions scientifiques à la télévision qu'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours conseillé de manière globale que en dehors d'M6 pour lequel j'ai une grande fidélité et qui a une grande fidélité pour moi, et je les en remercie, la science a jamais beaucoup excité les patrons de chaînes.
Ça devrait quand même être une mission du service public de l'audiovisuel, par exemple.
Ça pourrait être une mission du service public de l'audiovisuel. C'est un autre sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. Mais d'une manière globale, on voit aussi que la presse scientifique est en diminution. Vous avez raison, les études scientifiques également séduisent moins aujourd'hui.
Moi, j'étais abonné à Science et Vie, par exemple.
T'étais pas abonné qu'à ça, nous a dit, mais bon, je dirais rien pour les autres.
Je ne pouvais pas, mais Science et Vie, j'avais le droit.
Science et Vie qui était un excès, voilà,
bien sûr,
excellent journal, la recherche pour la science. À un moment, j'ai eu tous sur mon bureau, vous voyez, j'ai tous dévoré. Ça vient du fait que, oui, en France, de manière assez préoccupante, l'esprit scientifique a moins droit de cité qu'autrefois. Quand j'ai commencé en 1991, GLM6, il y avait dans tous les journaux de grosses rubriques science qui ont quasiment toutes disparu ou se sont petit à petit effondrées. Et c'est dommage parce que d'autres pays prennent le relais. On parlait du Covid il y a un instant, c'est quand même assez symptomatique de se dire que la France, pays de Pasteur, n'a pas réussi à mettre au point de vaccin contre le Covid. Quand on regarde, c'est né de collaborations germano-anglo-américaines essentiellement, plus quelques autres pays que j'oublie. Et nous, on n'a pas été capable de sortir de vaccin. Ça en dit long, effectivement, sur l'état de l'innovation et de la recherche en France.
Il y a eu un appel d'un grand patron, le patron de Thalès, qui regrette qu'on ait plus d'ingénieurs.
On n'a pas assez de scientifiques.
On ne les forme pas assez. On court à la catastrophe. Ça sera une catastrophe pour notre pays. Il a raison.
Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que quand on forme un ingénieur en France, on en forme 100 ou 1000 en Chine. Il faut se dire que la science, quoi qu'il arrive,
elle a raté plein de virages du coup.
Elle avance
ces dernières années.
Et on rate plein de virages. Alors, vous voyez, heureusement, on prend l'IA. On a des bons codeurs avec Mistral. On est en train, semble-t-il, de prendre un petit peu, voilà, d'accompagner cette révolution de l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de révolutions qu'on rate en médecine. C'est assez drôle. On parle du complotisme. L'autre jour, on a annoncé quand même une équipe américaine. Ils sont en train de mettre au point un vaccin ARN messager contre le cancer du pancréas, qui est aujourd'hui le cancer le plus létal qui existe. Et l'idée, quand même, c'est donc d'introduire de l'ARN messager dans notre corps, qui va permettre à nos lymphocytes, nos globules blancs, d'aller tuer les cellules cancéreuses dans le pancréas. Les premiers résultats, sur des échantillons tout petits, sont spectaculaires. Spectaculaires. C'est une promesse formidable pour ce cancer qui, je rappelle, est un des plus mortels au monde. Eh bien, à peine avais-je relayé sur X cette nouvelle, que tout le monde m'a dit « Ah, vous croyez qu'on va se mettre un vaccin ARNm dans le corps, etc. Vous qui avez déjà participé à l'assassinat de millions de personnes avec vos vaccins ARNm. » Ça en dit long, tout le monde devrait se réjouir. Mais en tout cas, c'est pas une recherche française, c'est une recherche américaine. Regardez nos derniers prix Nobel français. Ils se sont tous exilés un moment pour poursuivre leur recherche ailleurs. CRISPR Casper, notre grande généticienne, Emmanuelle Charpentier, voilà, elle est à l'Institut Max Planck à Berlin depuis des années, et elle le dit sans détour, je n'aurais pas pu faire en France la carrière que j'ai faite à l'étranger.
Charles.
Alors, pour en revenir, c'est terrible, hein, ce que vous racontez, mais bon, il faudra faire quelque chose pour ça. Non, un autre sujet qui m'a intéressé, moi, dans le livre, c'est cette histoire des cures et des produits détox. Ouais. Parce que on sent bien que c'est mode, un fantasme de beaucoup de gens de se dire que parce que ils vont prendre une espèce de tisane détox, ils vont se nettoyer d'une gueule de bois, d'une consommation d'alcool excessive. Et en fait, vous dites, en gros, ça sert pas à grand chose.
Alors ça, c'est typiquement une question à laquelle la science peut apporter une réponse. Hein, vous prenez un échantillon de personnes volontaires, vous leur donnez des produits détox et vous mesurez sur les paramètres de leur corps ce qui se passe. Voilà. Et la réponse, elle est simple, il ne se passe rien. Il n'y a absolument aucun aliment détox, à part un. Enfin, il est assez basique, je pense que je vais l'apprendre à personne, mais je le dis quand même, pour aider notre corps à bien tourner, aider nos organes, et effectivement, vous avez raison, les reins, le foie, à faire du travail, mais il faut boire de l'eau. Et pas la peine d'aller chercher de l'eau minérale, telle ou telle eau minérale, ou en bouteille, etc. N'importe quelle eau, à commencer par celle du robinet, vous fera exactement le même effet.
C'est la grande illusion, la détox.
Oui, c'est la grande illusion. Ça part d'un principe, je pense, que notre cerveau adore être trompé. Il adore les belles histoires. Et quand on lui rend une histoire avec un truc qui est un peu plus cher, mais qui a une petite promesse derrière, il se dit, ah bah, forcément, si c'est vendu plus cher avec une belle promesse derrière, c'est que ça doit me faire du bien. Bah, non, en fait.
Mais vous avez raison, parce qu'en fait, moi, j'ai du mal maintenant à faire la différence entre ce qui est vraiment scientifique et ce qui est la mode. Donc, par exemple, sur la détox, on a tous cette mode du matcha avec les filles qui sont avec leur matcha. Ça fait, voilà, c'est très détox, c'est vert, c'est sain, etc. Et puis, vous avez maintenant les protéines. Alors, les protéines, c'est vraiment le grand truc en ce moment. Ça avait commencé avec, je crois, le régime Doucan, je crois, où il nous disait qu'il fallait manger que de la protéine, etc. Et maintenant, vous en retrouvez partout. Parce que, c'est vrai que les études montrent qu'on est un peu, on mange peut-être pas assez de protéines, et notamment quand on vieillit, ça aide à l'entretien du muscle, etc. Mais là, je viens de voir des céréales, donc c'est les céréales Lyon, pour pas donner la marque, mais c'est des céréales qui sont quand même bourrées de sucre, voilà, qui sont maintenant protéinées. Donc en fait, on transforme tous les aliments classiques en protéines, en apport de protéines.
Vous avez raison. Alors faut se méfier, il y a encore des généralisations. Il y a un constat qui est vrai, c'est qu'au-delà de 50 ans, on estime qu'à peu près un Français sur deux est en déficit de protéines. Et vous savez, quand on vieillit, moi quand j'ai appris ça, j'étais le premier à me dire bon, je vais manger moins de viande, moins de protéines, manger plus de soupe, de légumes, ce qu'il me faut c'est des fibres, etc. Et puis j'ai fait le compte, parce que à 50 ans, globalement, il nous faut 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel. Bon, alors moi ça fait 80 g de protéines. Moi je peux vous dire 80 g de protéines, par exemple, c'est 12 œufs. Je suis loin de manger l'équivalent de 12 œufs par jour. Donc pour le coup, j'ai recommencé à manger des protéines dans mon alimentation et ça c'est un résultat tangible. Maintenant, vous me citez le cas de ces céréales protéinées, donc plutôt destinées à des enfants, oui, comme une alimentation normalement qui est bien protéinée. Mmh. Oui, ça me semble bizarre. Mais à la base, c'est vrai qu'il y a eu un constat, c'est qu'à un moment, les Français ne mangeaient. Les Français de plus de 50 ans ne mangeaient pas assez de protéines, c'est tout à fait vrai.
Vous rendez hommage, au début de votre livre, à vos professeurs, en disant c'est grâce à eux finalement que je me suis passionné pour la science et je suis devenu qui je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, nos professeurs à l'école peuvent encore faire naître des vocations scientifiques?
Alors, je pense qu'il y a toujours... Alors, d'abord, je vais doubler cet hommage, puisque vous m'en offrez l'occasion. J'étais au lycée de Biarritz, et j'ai eu d'excellents professeurs, qui étaient des vieux professeurs en fin de carrière, voilà, des physiciens, des mathématiciens, un biologiste extraordinaire. Ils m'ont vraiment donné le goût de la science. Et surtout, ils nous ont donné un excellent niveau. Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui toujours de bons professeurs, voilà... Les professeurs, c'est comme les garagistes, les cheminots ou les journalistes scientifiques. Hein. Il y en a des bons et il y en a des moins bons.
Les cheminots, il y a que des bons.
On va taper sur personne. D'une manière globale, je le vois très bien parce que j'ai encore des beaux enfants qui sont au collège. Le niveau a baissé. Et c'est pas que la faute des profs, c'est un phénomène un qui est mondial, oui. Là, deux qui est sociétal. Il y a la concurrence des écrans, il y a le fait qu'on veut pas stigmatiser, etc., etc. Et le niveau a baissé. Je pense que les professeurs, ce qu'ils font avant tout, c'est qu'ils suivent un programme. Si vous redonnez un programme plus ambitieux ou plus resserré sur des matières scientifiques, c'est pas la faute des professeurs si, à un moment, quelqu'un dans un ministère a décrété que les maths au lycée seraient une option comme les autres.
C'était monsieur Jean-Michel Blanquer. On l'a corrigé depuis.
Voilà. Dieu merci, ça a été corrigé parce qu'on a vu qu'aussitôt le niveau s'est effondré. Donc, oui, il y a les bons professeurs. Encore faut-il leur donner des bons programmes. Voilà. Et leur dire, soyez ambitieux pour vos élèves.
Merci, Mac Lesguy, d'être passé par les GG. Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. C'est aux éditions du Rocher. On vous conseille ce petit bouquin. C'est un plaisir de le lire. Joël, ça l'a mise en joie de retrouver l'idole, Mac Lesguy aussi.
Merci
Mac Lesguy. Suite des GG dans un instant.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules, il nous reste 10 minutes à passer ensemble avec Joël Dagosséry, avec Bruno Poncé, avec Charles Consigny. Il est midi moins 20 avant de passer le relais à Estelle Denis. Pour parler tiens un peu des réseaux sociaux et de ceux qui veulent modérer les réseaux sociaux. C'est l'idée d'un député. Il propose de limiter, écoutez bien, de limiter le temps de parole politique sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?
Vous le savez, la France est le pays de la régulation et de la norme. Et il y a effectivement un endroit qui est pas encore tellement régulé, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, il y a un député macroniste, Paul Midi, qui a déposé une proposition de loi visant à soumettre les réseaux sociaux à des règles de pluralisme comparables à celles de l'audiovisuel. Autrement dit, il veut imposer l'équité ou l'égalité du temps de parole. Ce sont des règles qui sont très pesantes pour les médias traditionnels, parce que vous le savez peut-être pas, mais on calcule à la seconde près les interventions de nos politiques qui sont ici, qui viennent dans les grandes gueules. Il faut équilibrer, etc. C'est un casse-tête qui fait qu'on embauche des gens pour uniquement faire ce travail et que parfois ça nous empêche d'ailleurs de faire venir en fonction de l'actualité tel ou tel responsable politique parce qu'on a fait trop de LR, trop d'insoumis ou pas assez d'écolo ou pas assez de RN, etc. Et ça c'est pour tous les médias. Hein.
Donc c'est pas assez de RN, ça va, je crois.
Ah bah si, parce que souvent c'est le RN qu'on fait en trop et il faut compenser, etc. Bon bref, mais ça c'est pour tous les médias, c'est pareil, c'est la loi, on est obligé de s'y plier. Et là on a Monsieur Midi qui trouve ça formidable et qui dit ben faudrait faire la même chose pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a raison ?
Joël ?
Donc, en fait, le dernier petit espace de liberté, ils trouvent un moyen de venir mettre une règle dessus. Tu vois, quand Elon Musk est arrivé et a repris Twitter, et qu'il a décidé qu'en fait, on pouvait dire ce qu'on voulait et qu'on pouvait juste annoter le tweet de quelqu'un pour rectifier tout ça, je me suis dit, ouais, ça va être chaud et tout. Et finalement, je m'y suis faite et j'aime bien. J'aime bien que d'autres personnes puissent venir dire, non, ce qu'il dit, c'est faux, la loi dit ça, ou une étude a montré ça, etc. T'apprends plus que de consommer bêtement. Donc, s'ils pouvaient nous laisser tranquilles, ça irait bien. Mm-hmm. D'autant plus que c'est à nous, en fait, si on trouve qu'on a trop de contenu politique, bah, il suffit d'aller regarder autre chose et ton algorithme, en fait, il te suit, ton algorithme, il te propose ce que tu aimes déjà. Donc moi, par exemple, ça m'arrive pour tromper l'algorithme d'aller voir complètement autre chose parce que je me dis non, si je reste dessus, il va me proposer que ça. Bah, je vois sur
YouTube. Tu dois en avoir des trucs de listener, toi. Tu dois avoir des trucs. T'as listener en boucle. Listener à la plage, listener au café.
Oui, mais ça va. Ça, j'aime bien. Listener au café. Non, mais... Il est à son bureau, à sa mairie, en train de travailler sur les dossiers.
Il est sérieux. Voir l'algorithme de Joël. C'est sûr. Ça nous manquait un peu de censure.
Ouais, c'est sûr.
Ça nous manquait. On a besoin de Paul Midi et de ses brillantes idées pour contrôler ce qu'on met sur nos réseaux sociaux. Ça nous manquait.
Midi à sa porte.
Voilà. Bravo. J'ai essayé. Je cherchais comment faire un jeu de mots avec.
Il y en a d'autres.
Hein. Midi, midi à 14h. C'est ça. On est.
Les règles de temps de parole politique sur les médias traditionnels sont une usine à gaz sans nom qui digne de l'époque soviétique. C'est un truc complètement débile.
On est les seuls à avoir ça dans le monde. Hein.
On est évidemment les seuls à avoir ça dans le monde. Ça, je n'ai
dans
aucun
le monde démocratique.
Aucun
ailleurs.
S'il avait voulu proposer un truc utile, ça aurait été au contraire de changer ou de supprimer ces règles-là. Mais bien évidemment, ça n'est pas ce qu'il veut faire. Il veut les dupliquer pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, bonjour l'usine à gaz. Une fois qu'on crée ça, enfin bon. Donc c'est marrant. On voit le vrai visage de cette Macronie qui est soi-disant le parti des jeunes gens modernes, etc. En fait, ils ont un problème avec la liberté. Il faut toujours qu'ils viennent essayer de régenter les choses. Moi, par exemple, j'aime beaucoup ce qui est devenu Twitter depuis qu'Elon Musk l'a racheté. Alors, c'est vrai, il y a tout et n'importe quoi. C'est une espèce de Far West absolument complet. C'est gorgé de fake news, c'est sûr. Mais au moins, c'est complètement libre. Et je trouve ça très agréable, cette liberté. Ne pas sentir le poids de la censure, de la mauvaise foi et des puissances qui essayent de régenter les choses. Et donc, je m'inscris totalement en faux contre cette proposition de Paul Midi.
Pas de modération,
pas de limitation. Je pense qu'il faut laisser la liberté totale et je pense même, moi, qu'il faudrait autoriser les médias traditionnels à avoir la même liberté.
Il dit qu'il y a une jungle numérique qui s'est développée, qu'il avait constaté lors de sa propre campagne pour la députation en 2024, qu'il y avait une omniprésence de certains contenus politiques sur les mobiles des jeunes électeurs. Alors, c'était visiblement pas les contenus macronistes.
Oui.
Et donc, il trouvait qu'il fallait équilibrer.
Pardon, Paul Midi soutient le jeune Attal, qui fait au moins autant de TikTok que Bardella, si ce n'est davantage. Il essaie lui aussi de rentrer dans les algorithmes des jeunes. Après, encore faut-il dire des choses qui intéressent les jeunes. Je ne suis pas sûr que Paul Midi ait forcément un discours qui passionne les jeunes.
Bruno Poncet, est-ce qu'il faut limiter effectivement le temps de parole des politiques sur les réseaux sociaux ?
Non, absolument pas, parce qu'en fait, les gens ils vont voir ce qu'ils ont envie de voir et ça s'appelle la liberté. Il faut peut-être plus enseigner aux gens très tôt le fait de voir plusieurs opinions et à un moment donné de faire la tienne, plutôt que d'aller voir tout le temps la même chose et puis de toujours rester en boucle. Après, il y a les réseaux sociaux, moi je suis d'accord, mais c'est là le problème des réseaux sociaux, c'est que on ne condamne pas assez les réseaux sociaux sur ce qu'ils font de répréhensible. C'est-à-dire que sur les réseaux, tu as des appels au meurtre, tu as beaucoup de choses, et je pense que ça, à un moment donné, il faudrait les condamner. Je rappelle quand même qu'on a quelqu'un qui a eu une création d'un fonds Marianne qui était pour aller chercher les trucs répréhensibles sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, le fonds Marianne est parti sur des gens qui ont pris l'argent pour faire des piscines chez eux.
Ce qui est drôle, c'est que Paul Midi, pour justifier sa mesure, il prend l'exemple d'une maman qui est venue le voir éplorée. Mon enfant regarde trop de contenu de Bardella. Et il a donné un autre exemple en disant, il y a des gens qui regardent trop de contenu de Mélenchon.
Donc
c'est ça. En fait, je trouve qu'il se trahit. C'est-à-dire que Paul Midi, il ne supporte pas qu'on regarde des contenus qui ne soient contenus macronistes.
Tu comprends?
Je suis désolé. En démocratie, effectivement, ni Mélenchon ni Bardella ne sont interdits. Alors peut-être qu'on peut les interdire, mais on a le droit de regarder leurs vidéos, leur Insta, etc. C'est ça le débat démocratique.
Il nous faut plus de contenu de Prisca Thévenot.
Du centre.
Il nous faut plus de
Aurore Berger.
Il nous faut
je
plus
que ça.
Mais
en
oui,
boucle.
Mais c'est plus. Mais non, mais bien sûr.
Il faut même l'imposer.
En fait,
à l'école.
La réalité, c'est que Paul Midi est dans l'aveu. Leurs discours sont tellement nuls qu'il faudrait en passer par la loi pour contraindre les jeunes à les regarder. C'est en fait ça la finalité de son
parce que les algorithmes invisibilisent leur discours, en fait. C'est ça.
Ils sont trop chiants.
C'est là où tu vois toute la mentalité un peu française, c'est-à-dire que la concurrence, on en a toujours très peur. Donc dès que t'as de la concurrence qui arrive, il faut vite la stopper parce qu'en fait, ça nous empêche de vivre. Mais ils ont qu'à être créatifs. Ils ont qu'à engager des gens qui sont forts en communication digitale, leur créer des TikTok, des vidéos, etc.
Et pourtant, Macron, il fait passion de contenu avec des TikTokers.
Même sans TikToker, tu peux avoir une belle communication sur les réseaux sociaux.
C'est intéressant ce que tu dis parce que je reviens à ce papier très intéressant dans l'opinion aujourd'hui sur Édouard Philippe.
Encore
non,
C'est mon obsession du jour.
Que dit-on autour de lui ? On est trop vieux jeu sur les réseaux sociaux. Ouais. On est en train de se faire dépasser et de se faire balader. Tu vois, ils disent aujourd'hui, ils disent, on va pas se positionner sur le testicrousti ou quoi que ce soit, mais ils cherchent comment justement pousser Édouard Philippe et leur candidat sur les réseaux sociaux.
C'est que quand ils vont vouloir faire jeune, c'est là où ils vont être ridicules. Mais moi, je suis persuadé que la prochaine présidentielle se fera en grande partie sur les réseaux sociaux.
Souviens-toi, Mélenchon avait été très bon dans la campagne où il avait sorti son hologramme, ce qui lui permettait de tenir plusieurs meetings. Alors, ça valait ce que ça valait, mais ça avait créé le débat et il avait utilisé les nouvelles technologies.
Il faut reconnaître que Mélenchon, du haut de ses 74 ans, et son équipe, mais assez jeune, et Bardella l'ont très bien compris, Gabriel Attal l'a aussi bien compris, mais ça ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux, il faut du contenu. Il faut du contenu aussi.
Il faut savoir
un programme.
Il faut savoir s'entourer, c'est le propre d'un leader politique.
Exactement.
C'est de savoir s'entourer. Il faut accepter de sortir de son premier cercle. Attention, parce que effectivement, si tu vas chercher l'assistant parlementaire de machin, eh ben oui, tu vas avoir du mal à mettre du souffle dans ta campagne. Et ça, ils savent pas le faire. Ce que sait faire Mélenchon, voilà.
Ah, non seulement faut mettre du contenu, tu as raison, les propositions, mais tu dois surtout renouveler ton électorat, parce que si aujourd'hui tu veux pas te faire élire uniquement par les gens qui viennent au meeting, et ceux qui viennent au meeting, ce ne sont que les convaincus.
Non, mais les retraités, c'est important.
Tu peux aller à chercher d'autres électeurs.
C'est important, mais il y a une partie de l'électorat qui aujourd'hui ne s'informe plus en regardant les chaînes traditionnelles.
Non, mais Charles, il l'a dit tout à l'heure, les soutiens d'Edouard Philippe, ça va être qui? Ça va être des Pécresse, des machins qui ont 60-70 piges, que t'as vu pendant 40 ans.
Pas 70 piges.
Ah, ben moi, je suis désolé, mais derrière Mélenchon, tu vois Clémence Guettet, tu vois des mecs 25-30 piges. Ah, bah, elle a la différence aussi à un moment donné. Et TikTok, c'est eux qui l'utilisent le plus.
Allez, mes chers GG, c'est fini. Laisser Olivier Truchot reposer sa voix, mais sinon, on a un sosie vocal. Hein.
Je suis ton père.
Et nous, on se retrouve demain. Demain, les GG, nous serons avec Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre de Boisse. Sont Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre de Boisse? Ce sont les fondateurs du canon français. Vous savez, le canon français.
Les nazis, tu veux dire.
Ces banquets qui provoquent tant de polémiques aujourd'hui, puisqu'on les accuse effectivement d'être proches de l'extrême droite, des néo-nazis, d'abriter des racistes, de faire des banquets pour, au contraire, éloigner les musulmans, puisqu'il n'y a pas de nourriture pour eux. Bref, ils viendront répondre à toutes les critiques demain dans les GG, dans les grandes gueules. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Nous, on va parler de la qualification incroyable du Paris Saint-Germain hier pour la finale de la Ligue des Champions, mais aussi de ce qui s'est passé juste après en région parisienne. 127 interpellations, un blessé grave. Est-ce qu'on peut encore faire la fête sans violence? Est-ce que le foot rend débile? Eh bien écoutez, on en parle avec vous.
Tu as vu l'exposition du photographe?
Alors justement, l'exposition de Yann Arthus Bertrand, saccagé, place de la Concorde.
Et tu sais quel est le thème de cette exposition?
Le vivre ensemble, évidemment. Et on va vous le faire écouter. Yann Arthus Bertrand dans un instant dans Estelle Midi. On sera avec Daniel Riolo, tiens, Juliette Briens et Pierre Rondeau. Vous nous appelez pour en débattre avec nous au 32-16. On parlera de cette épidémie à l'antivirus. Que là, ça y est, tous les journaux font des directs. Il se passe des choses en permanence. Ça nous rappelle quelque chose, évidemment. Mais est-ce qu'il faut.
T'as des masques dans ton tiroir ou pas?
Moi, vous savez, avant le Covid, j'ai acheté les masques en janvier. Donc, 3 mois avant le confinement. Donc, j'en ai encore quelques-uns. Mais on aura le grand infectiologue Robert Sebag qui nous dira justement si on doit s'inquiéter ou pas. On parlera également du gros dilemme des organisateurs de festivals cet été à cause de la venue de Patrick Bruel. Il va faire plus de 50 dates, Patrick Bruel, mais il est accusé de viol et violences sexuelles.
C'est complet à chaque fois. Hein.
Eh ben oui, mais sauf que les programmateurs, il y a quand même un malaise. Est-ce qu'ils doivent déprogrammer ou pas Patrick Bruel? Ça, ce sera notre débat de midi et demi. Et puis alors là, 14h, incroyable. Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, il réclame l'interdiction de l'alcool dans les aéroports, surtout tôt le matin. Il dit, en fait, c'est quand même pas normal de boire de la bière ou de l'alcool à 8h du matin.
Ah, pour prendre ses avions aussi.
Il y a un avion par jour qui est détourné à cause de l'alcool. Avant, il dit, quand j'ai pris mes fonctions, c'était un toutes les deux semaines. Est-ce qu'il faut interdire l'alcool dans les aéroports?
Les gens, ils s'arsouillent avant, en fait.
Comme c'est des destinations à bas prix, il y en a plein qui vont faire des enterrements de vie de garçon en prenant Ryanair. Et en fait, ils se mettent déjà des mines dans l'avion, quoi.
Mais vous avez jamais vu ça? Ça vous est jamais arrivé?
Si, moi j'ai plein de vidéos.
Et voilà, pas que.
Alors. Et alors, tu préfères?
Le tu préfères? Et c'est vraiment pas facile. Je sais même pas ce que j'en pense. Olive noire ou olive verte?
Olive noire. Olive noire et olive de Nice.
Ça dépend en tapenade ou à la cuisine, c'est pas pareil.
Moi, je fais les grosses.
Olive de Nice, et alors les olives fourrées, les trucs à la con, là.
Ah non, clairement, c'est hyper bon.
Ah non.
Mais si.
Allez, bonne émission avec Estelle.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.